Le quart d'heure de l'INO, une émission en partenariat avec Habitéo sur Radio Immo.
Eh bien, nous voici de retour ici au CIMI édition 2022, il est 14h39. Et on va faire un spécial quart d'heure de l'INO, bien évidemment, accompagné de celle qui a commis cette collection. C'est notre amie Jeanne Massa. Comment ça va, Jeanne ?
Mais ça va très bien, Sylvain.
Voilà, un quart d'heure de l'INO en direct, ici, au CIMI édition 2022. Et on aime toujours, dans ce quart d'heure de l'INO, inviter des professionnels. Là, pour le coup, on ne va pas bouder notre plaisir. On a un grand monsieur de l'immobilier. Il est sur le plateau. C'est Olivier Barge. Bon, comment ça va, Olivier ?
Très bien. Bonjour à tous.
Le directeur général d'APRC. On peut le dire aujourd'hui, l'expert, le spécialiste de la logistique, de cette classe d'actifs dont tout le monde parle d'ailleurs. Puisqu'aujourd'hui, on se rend compte, d'ailleurs, surtout les financiers, que cette classe d'actifs devient hyper bankable parce que les taux de rendement comparés font qu'aujourd'hui, ça devient le challenger du taux de rendement.
La valeur refuge.
Et d'ailleurs, on envisage, et d'ailleurs, je vais vous dire, on n'envisage plus du tout une gestion de portefeuille sans avoir une base logistique hyper béton. J'aimerais, pour démarrer cette émission, parce qu'on va parler, bien sûr, comme son nom l'indique, d'innovation, et pour cause, c'est le quart d'heure de l'INO qui durera 3 heures. Non, je déconne, ça va durer 20 minutes. Mais c'est pour dire, avant de parler de l'innovation, parce qu'il y a de l'innovation dans la logistique, c'est d'abord de quoi on parle, Olivier, quand on parle de logistique, parce que souvent on a des idées un peu tronquées hein, sur le dispositif.
La logistique, c'est tout simplement la distribution de tous nos biens de consommation hein, qui sont à destination aussi bien des particuliers que des entreprises. Donc ce flux de distribution, il existe aujourd'hui. Il se fait comme il peut. À en croire les échos qu'on en a, pas très bien. Donc nous, en fait, acteurs de ce secteur, notre mission, c'est d'améliorer les choses. Et donc, quand on travaille sur le transport, quand on travaille sur l'immobilier, c'est pas pour faire rouler des camions vides ou faire des bâtiments vides. C'est au contraire pour produire une solution qui va améliorer la situation actuelle. Ça l'améliore économiquement, certes, mais la bonne nouvelle, c'est que ça l'améliore aussi écologiquement. Si on fait moins de kilomètres sur les routes, si on a des bâtiments pleins qui permettent de mutualiser les transports, les services, les stockages, la gestion des préparations de commandes, etc. Bah, tout ça, c'est bon économiquement et écologiquement.
Sur les infrastructures, en général, de quoi on parle ? On parle de taille astronomique, on parle d'entrepôts de 20, 30, 40 000 m². Quelle est la typologie en fait, des configurations de ce qu'on appelle globalement la logistique ?
Aujourd'hui, on a différents types de logistique. On a la logistique qu'on appelle un peu les grandes boîtes, qui sont des bâtiments qui, en moyenne, aujourd'hui, font probablement autour de 40 000 m².
Mais en moyenne, ouais.
Ça va jusqu'à 100 000 m².
Mais ça, c'est quoi ? C'est du Amazon
Donc ça, c'est des grands entrepôts,
trucs, voilà, des entrepôts.
Dont Amazon, mais d'autres,
bien sûr. Oui.
Dans lequel, en fait, pourquoi des bâtiments aussi grands ? Simplement parce qu'en fait, au lieu d'avoir 3 bâtiments disséminés sur un territoire qui vont nécessiter plus d'artificialisation des sols qu'un seul, qui vont nécessiter aussi qu'un camion aille d'une boîte à l'autre pour
aller chercher. C'est mieux d'en avoir qu'un.
Là, on n'en a qu'un. Et avec ce bâtiment-là, on fait de l'omnicanalité, c'est-à-dire qu'on peut transporter des biens avec un seul véhicule sur toutes les destinations. C'est-à-dire qu'on transporte aussi bien aux particuliers qui a commandé sur e-commerce que pour un restaurant, que pour des chantiers de BTP, que pour des entreprises. Et tout ça part d'un même entrepôt. Donc le besoin de rationaliser, d'optimiser les transports, qui sont l'impact majeur économique et écologique de la distribution, enfin, la partie la plus importante, est optimisée grâce à la réalisation de ces grandes surfaces de stockage. Donc ça, c'est le premier élément. Après, on a un deuxième élément qui est représenté souvent par ce qu'on appelle des messageries, qui sont des lieux d'éclatement, en fait, très proches des centres-villes. Et pourquoi on a besoin de ces lieux d'éclatement ? Ben parce que, malheureusement, on n'a pas su conserver au centre ou au cœur de nos métropoles les grandes boîtes. Hein, les grandes boîtes, dans l'Antiquité, elles étaient le long de la Seine, hein, sur les quais. Aujourd'hui, on s'y promène, c'est bien, c'est sympa. Mais en termes de logistique, c'est moins bon.
Il y a Bercy, hein, Bercy qui est un peu la transformation totem hein, de cette reconfiguration. Tout le vin européen passait par les quais de Bercy.
Exactement.
Effectivement, parce que ça se cheminait sur le fleuve. Et il y avait une gare qui était la gare de triage de Bercy, qui existe toujours d'ailleurs, qui a été aussi extrêmement bien référencé. Ce qui est intéressant, c'est marrant parce qu'on parlait du nom de la scène. C'est qu'aujourd'hui, il y a des projets de retravailler en fait tout ce qui, les mariniers pour oui. retravailler en fait la livraison, et on se rend compte, on revient finalement.
Exactement.
Ces populations avaient disparu, on est en train de revenir.
En fait, on a fait plusieurs erreurs. Ouais. On n'a pas su maintenir nos activités de logistique dans le centre des métropoles, notamment sur les quais, qui étaient vraiment un élément structurant et essentiel de cette distribution. Donc on les a mis à des kilomètres, à 50 kilomètres autour de la métropole. C'est comme si on prenait la gare de Lyon, la gare du Nord, la gare Saint-Lazare, on les mettait à 50 kilomètres. On voit bien que ce n'est pas très malin. Pour les voyageurs, on ne l'a pas fait, heureusement, mais pour les marchandises, on l'a fait. Et donc aujourd'hui, on se dit, ah ouais, c'était peut-être pas très bien. On a mis les quais piétons, et c'est super sympa le dimanche. Moi, le premier, je vais m'y promener, c'est très agréable. Mais je pense que l'idée pertinente aurait été de faire les deux à la fois. C'est-à-dire conserver, on peut très bien les rendre en promenade pour le week-end, et en même temps avoir une mixité d'usage.
Oui, mais tout simplement garder la zone portuaire qui existait à l'époque, qui était un environnement extrêmement intéressant. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit bien en fait que l'idée, on a assez d'années, vous et moi, dans l'immobilier, pour avoir connu le fait que en fait, c'était un changement de paradigme. On s'est dit, voilà, la petite industrie va partir en deuxième, troisième, quatrième couronne. Donc on a créé des villes artificielles. Je prends Bondoufle, par exemple, Évry, Cergy. Les villes nouvelles dans lesquelles, finalement, qui sont mais tristes à mourir pour ces personnes-là. D'ailleurs, on se rend compte que cet urbanisme-là, qui est criminogène par nature et qui était des cités dortoirs, on les appelait à l'époque les cités dortoirs, et on a relocalisé parce que le foncier n'était pas cher à l'époque. Où on s'est dit, tiens, bah, les entrepôts, les méga entrepôts logistiques, on va les mettre là-bas pour ne pas dénaturer la ville. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, c'était une erreur d'urbanisme considérable. À l'instant même où on pense l'énergie. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il faut mettre ça aussi en relief.
Exactement.
Avec les problématiques d'émissions de carbone.
Exactement.
Parce qu'il n'y a pas d'antinomie entre les deux. Parce que souvent, quand on vous répond, je suis sûr que ça doit vous énerver, ça. On doit vous dire, on vous dit, oui, la logistique, vous êtes bien, mais vous êtes des super consommateurs de carbone, des émetteurs de carbone. Ben, la réponse, c'est pas si évidente que ça. La réponse, c'est même plutôt non. Parce qu'il y a de gros efforts qui sont faits pour la maîtrise des émissions de carbone. Quand on vous dit ça en général, quel type de réponse vous avez à opposer à ça?
C'est assez simple sur la partie carbone. En réalité, si il faut juste étudier les choses de façon pragmatique. Si on se compare dans l'immobilier aux différentes catégories d'actifs, et je ne dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, il faut des logements, il faut des bureaux, il faut de la logistique, il faut les trois. Ça n'empêche qu'au mètre carré, un entrepôt logistique, c'est entre 350 et 400 kg de CO2 de produits en construction. Pour du logement ou du bureau, on va être 2 à 3 fois plus. Voilà, la densité de matériaux fait que la production au mètre carré est beaucoup plus importante. Donc, on est sur une catégorie.
Donc, vous êtes en train de me dire que cette classe d'actifs est la moins émettrice de carbone
au mètre carré.
Oui.
Et alors, sur la partie artificialisation des sols, c'est aussi un sujet. Ben, l'immobilier logistique représente moins de 1% de la part annuelle d'artificialisation des sols, là où le logement représente, je crois, 46%. Il faut des logements, ce n'est pas le sujet, mais on a tous notre part du chemin à faire, bien sûr. Mais ça n'empêche que nous, c'est moins de 1% parce qu'on travaille beaucoup sur des friches industrielles et on densifie beaucoup les opérations. À l'intérieur de nos entrepôts, on a forcément, quand on dit logistique, l'image d'Épinal avec un cariste et des palettes. Et c'est plus ça, c'est de la haute techno aujourd'hui. À l'intérieur, on a de la robotisation. On a même des start-up merveilleuses, des licornes en France, comme Exotech par exemple, qui sont capables de faire des densifications de flux sur 4000 m², que si on les avait fait manuellement, comme on faisait il y a 20 ans, c'est pas 4000 m², c'est 12 ou 15000 m² qu'il aurait fallu. Donc aujourd'hui, ces entrepôts sont pas perçus au niveau de ce qu'ils sont, malheureusement. Parce que la réalité, c'est qu'on est plutôt dans des projets industriels de haute technologie que dans l'image qu'ils en ont.
C'est quoi cette innovation? Donc, vous parlez d'Exotech, mais vous parlez au sein même de l'entrepôt, dans la construction, j'imagine aussi.
Oui.
Et dans le transport ?
Oui, alors on est sur la construction, il y a plein de sujets. Hein. On adresse différentes préoccupations, la préoccupation économique, il ne faut pas se le cacher, mais la préoccupation énergétique en kilowatts et aussi la préoccupation de CO2, de carbonation. Il faut raisonner sur les trois à la fois, il faut trouver le meilleur compromis. Donc on a, sur la construction, on utilise de plus en plus de bois. Par exemple, les charpentes des entrepôts se font en bois aujourd'hui avec de lamelles collées. Et on a donc
de moins en moins de métal.
Alors, le métal, il y en avait déjà plus depuis 20 ans parce qu'en fait, la tenue au feu du métal n'est pas compatible avec la réglementation française. Donc, on était soit en béton, tout en béton. Mmh. Et aujourd'hui, on est de plus en plus en bois. On fait beaucoup de sujets autour des économies d'énergie. Un des entrepôts que j'ai réalisé il y a 2 ans, un grand entrepôt pour Monoprix, il a été bilan carbone neutre sur les scopes 1 et 2, construction et exploitation sur 50 ans. On a mis en place de la géothermie sur le site. On a renforcé l'inertie du thermique du bâtiment.
Surface, en plus, vous avez des 100 000 m².
Oui,
c'est énorme.
C'était, en fait, si on l'avait fait de façon standard, sans avoir cette attention-là, c'était une production de 150 000 tonnes de CO2. On l'a passé en faisant éviter, réduire, on est passé de 150 000 à 38 000 tonnes. Et le petit morceau, encore trop grand, mais auquel on a réussi à arriver, des 38 000 tonnes, on les a compensés pour arriver à zéro. Donc on arrive concrètement à faire des choses très intéressantes.
Et ça en fait des bâtiments quasiment autonomes ? Et ça aujourd'hui, parce que vous avez des surfaces aussi pour des panneaux solaires, j'imagine, pour un certain nombre de choses entre de la géothermie et le panneau solaire, normalement.
Mais même positif demain.
Mais même positif.
Parce que ces entrepôts-là sont des producteurs d'énergie.
Bah oui.
Aussi. Donc c'est un multi-usage. Donc demain, on sera capable.
Vous pourriez alimenter en économie circulaire tout un quartier autour.
Potentiellement. Aujourd'hui, techniquement. Alors c'était réglementairement compliqué. Aujourd'hui, il est possible de faire des centrales photovoltaïques mutualisées, etc. Donc, on regarde ces sujets-là. On fait de l'autoconsommation aussi. Mm-hmm. Donc, on produit, on consomme sur place. Mm-hmm. Donc, il y a plein de sujets autour du photovoltaïque. Il y a des sujets autour de la géothermie. Et puis, il y a des sujets aussi de bon sens. Il suffit de rajouter 2 ou 3 cm d'isolant en plus sur un entrepôt pour gagner 30% de sa consommation. Enfin, faut aussi penser à tous les sujets. On utilise des éclairages LED à intensité variable, détection de présence. Ben, c'était le plus gros poste de consommation d'un entrepôt il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a divisé par 4 ce poste-là. Donc, vraiment, cet actif-là est vraiment dans une démarche d'innovation et de performance extrêmement dynamique.
Ceux qui exploitent aujourd'hui vous sont gré de toutes ces innovations, bien évidemment, parce que pour eux, c'est un facteur non seulement de bien-être, de bien-être au niveau des équipes, mais aussi un facteur d'accroissement de la productivité, de leur rentabilité aussi, puisque là où vous économisez, vous êtes d'accord, de l'énergie, là où vous économisez, là où vous optimisez effectivement les flux, par exemple, c'est autant de productivité pour... c'est là qu'on comprend mieux que la classe d'actifs en elle-même devient extrêmement vertueuse.
On a réalisé cet entrepôt pour Monoprix il y a 2 ans. Dans une idée de décarbonation, on l'a déconnecté du gaz. Il consomme pas de gaz du tout.
Zéro
gaz.
Et
dans cette classe d'actifs, c'est assez rare. Mmh. Et là, voilà, zéro gaz. Mmh. Le directeur général de Monoprix, il m'appelait tous les matins en me disant bah, « C'était une bonne idée, ça, ce que vous avez fait, là. »
C'est clair. Et vous disiez aussi qu'en fait, vous optimisiez les flux de transport.
Ouais.
Parce que quand vous créez ces XXL, ces entrepôts un peu XXL, vous pouvez réduire 3-4 arrêts de camions
qui
se positionnent à un seul endroit.
Alors ça, c'est un sujet qui est difficile à expliquer, alors que c'est en même temps évident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on crée un entrepôt, une base logistique, une plateforme, on voit tout de suite, on se dit, oulala, la nuisance de tous ces camions. En fait, en réalité, ces camions, ils existent déjà. Le flux, il existe. Donc, ces camions, ils existent déjà. Et en faisant, si on fait une nouvelle base, c'est pour réduire le nombre de camions au global. Donc, effectivement, dans la rue...
C'est pas évident à assimiler, dans l'idée.
Si, mais parce que si on le réduit pas, ça n'a pas d'intérêt. Mmh. C'est-à-dire que si pour distribuer un volume un flux de marchandises défini, il faut 1000 km de camions, et que vous faites un entrepôt, il vous en faut 1500. Où est l'intérêt ? Si on le fait, c'est parce qu'on va mutualiser, on va optimiser les kilomètres, on va mutualiser les services, les transports, les biens, les objets stockés. Et au lieu de faire 1000 km, on va peut-être en faire que 700.
Là, je comprends.
Et puis vous mutualisez les camions aussi.
Mais j'en reviens à l'exemple des gares. Hein. Je veux dire, quand on fait en transport les usagers en train, on se dit, bah oui, c'est évident que c'est mieux que chacun prenne sa voiture.
Mais oui.
Bah, la marchandise, c'est pareil.
Mais oui. Non, mais ce que vous dites, c'est une évidence, même du bon sens. Mais dit comme ça, ça illustre bien en fait les clichés dans lesquels on est enfermé. Mm-hmm. Je pense qu'en fait, vous êtes d'accord là-dessus. Mm-hmm. Il y a beaucoup de clichés dans lesquels on est enfermé. Qu'est-ce qui explique la méconnaissance de cette classe active à ce niveau-là? Et je pensais notamment, par exemple, aux élus locaux.
Ben oui, c'est ça.
Parce que vous avez besoin de surface.
Parce que vous n'êtes pas
hyper bankable auprès de certains élus.
La logistique est transparente. Je veux dire, on commande tout ce qu'on a là sur nous, les micros, là, les habits, tout, c'est tout passé dans un entrepôt à un moment donné.
Là, c'est clair.
Mais c'est transparent, c'est invisible.
Je pense même que j'ai dû être livré, moi aussi.
Ben oui, mais oui. Mais,
un jour, donc, par une petite cigogne.
Donc, quand on est usager des transports, là, on se rend compte de cette logistique en tant qu'usager humain, mais en tant que bien, le colis que vous recevez en 2 heures, il est passé, il a fait tout un cheminement. Il faut savoir, j'ai une anecdote. En ce moment, à Paris, j'écoutais, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça m'a scotché. Je la partage. Il y a tous les matins à 8 heures une camionnette des camionnettes qui se mettent sur le périph' à tourner. Et elles sont remplies de chargeurs de téléphone. Et vous commandez sur Internet votre chargeur de téléphone, tac, il est là en une demi-heure. Parce qu'en fait, il est sur le périph', il tourne toute la journée. Super, hein,
c'est énorme.
Hein, c'est... non, mais c'est pour dire que...
Il y a de quoi faire un papier, là.
Dire que ça fait partie de la logistique, ça fait partie des choses qu'on doit améliorer.
Mais en fait, c'est comme l'ascenseur, on l'apprend sans s'en rendre compte.
Voilà.
D'accord ?
C'est ça.
Pourtant, il y a quand même un sacré fantasme autour de l'ascenseur, quand même. Hein. C'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas à quel point ce que vous dites rythme, dicte, organise notre vie quotidienne. Voilà. En fait.
Et en même temps, on est les acteurs de ça. C'est-à-dire que si nous, chacun, on se dit, ben, plutôt que de me le faire livrer devant ma porte en 30 minutes, j'accepte que je sois livré en 24 heures. Je pense que pour 80% des produits, si ce n'est plus, ça ne doit pas poser de problème.
Sans problème.
Mais l'empreinte carbone n'est pas la même. Hein.
Non.
Quand vous dites qu'elle n'est pas la même?
Ben, c'est-à-dire que si on accepte...
Elle est plus élevée quand
on accepte...
La dictature
du consommateur
et de l'immédiateté, de l'incapacité à devoir patienter...
Impacte directement l'environnement, bien sûr.
Ça devient presque une philosophie. Hein.
Oui, complètement. On pourrait
faire une philosophie sur l'éloge de la patience.
Et bien sûr, il faudrait faire des messageries.
Parce que je vous dis, vous avez Getty.
Comme les stations,
je vous parlais de Getty. Avant, on avait Speed Rabbit qui te livrait en 30 minutes.
Oui.
D'accord.
Oui.
S'il dépassait à 31 minutes, il t'offrait les olives. C'était une blague des inconnus. Et après, on est passé sur des livraisons en une demi-heure max. Et là, Getir, le pari, c'est on vous livre les produits de première nécessité en 10 minutes. Donc en fait, la doxa actuelle, c'est on veut abroger le temps, donc forcément, ça a un impact négatif.
À la limite, pourquoi en 10 minutes ? Pourquoi pas en 10 minutes ? Mais à ce moment-là, livrons-les dans un centre qui est à moins de 300 mètres, comme les stations de métro, quoi. Mmh. Voilà, on en fait.
Et puis,
pour 80% des produits, on est capable de descendre dans la rue, faire 300 mètres, prendre son produit qui est disponible 24/24/7/7.
Comment ça se passe avec les élus ?
Eh bien, c'est assez compliqué parce qu'on n'ose pas déjà prononcer le mot logistique. C'est tabou. Hein. C'est,
voilà.
Ben oui, c'est compliqué. Donc,
c'est de la pédagogie, c'est beaucoup de pédagogie. Mais parce qu'il y a tellement d'idées reçues, j'imagine. Ouais. En fait, on va vous dire, vous dénaturez le paysage, c'est la première des choses. Vous allez nous créer des nuisances, c'est la deuxième des choses. Vous allez... et alors que finalement... la plupart des entrepôts s'intègrent peut-être mieux que certains bâtiments dans le paysage.
Parce que justement, parlons de l'esthétique. Est-ce que vous arrivez à vous insérer dans tout cela ?
De plus en plus, on travaille sur l'esthétique. Est-ce que c'est parfait ? Non, ce n'est pas parfait. Donc, on continue et tous les mois, tous les ans, on améliore le sujet. Mais c'est sûr qu'on a encore du chemin à faire sur ces sujets-là. Faut pas se le cacher. Mais c'est pas le plus gros des problèmes. Le plus gros des problèmes, c'est plus les nuisances de trafic. On travaillait avec Jeanne sur le sujet, notamment pour expliquer que quand on fait un objet, une solution, qu'on crée une solution de distribution logistique, immobilier logistique, on on améliore la situation des flux en général.
Urbain.
Et donc ça, c'est difficile à percevoir. Et donc on est obligé de travailler sur des démonstrations graphiques, des flux avant, après, etc. pour dire, ben, vous voyez, c'est...
Habité autre travaille sur ce genre de choses.
Exactement.
On va avancer, c'est un avant-projet, voilà. L'annonce.
Voilà. Non, mais on réfléchit sur
oui,
ces...
Oui.
On a besoin de réfléchir là-dessus.
C'est important dans la pédagogie des choses.
Dernière question, c'est bien de donner des chiffres. Ça représente quoi la logistique en France ?
La logistique, c'est 80 millions de mètres carrés d'entrepôts, ce qui représente à peine la ville de Marseille.
C'est pas si élevé que ça. En fait.
Ben non, c'est pas si élevé que ça. Non, mais
et quels sont les besoins ?
Voilà. Et les besoins sont d'un million de mètres carrés par an à peu près en ce moment.
Ah, quand même.
Donc ce qui paraît beaucoup, mais en même temps,
oui, ça paraît énorme.
Oui, mais
c'est quand on compare au volume de logements et d'infrastructures faits tous les ans, je vous dis, on est de moins de 1% de cette part-là.
Vous êtes d'accord que le volume en mètres carrés de la logistique, il est aussi à corréler avec la démographie. Donc
exactement.
Il y a les besoins démographiques.
Tout à fait.
Et donc l'évolution même anthropologique, finalement, dans une certaine mesure, des
suit
besoins.
La démo.
Des besoins, parce que l'explosion des cellules monoparentales crée des besoins supplémentaires. Mmh. Donc là où il n'y avait qu'une seule livraison, parce qu'il y avait qu'un couple, il y en a deux, parce qu'maintenant, il n'y a plus de couple. Donc tout ça a des aspects. Donc finalement, votre métier touche à la sociologie, touche à la démographie, il touche à l'équilibre de ville. Et je ne suis pas sûr que les élus aient bien percuté. Hein,
oui, c'est-à-dire
pour
que
les connaissants.
Quand on décide d'accueillir cette démographie et de la.
Il faut accepter d'avoir des gens
anthropologiques. Il faut accepter aussi,
oui.
Comme on accepte une école, qu'on accepte un hôpital.
En fait, vous feriez partie des infrastructures publiques nécessaires à l'accueil démographique.
C'est vital. Ouais, on ne peut pas, je veux dire, arrêtons la logistique, là, tout s'arrête. Ouais. Là.
Vous savez ce qu'on va faire, Olivier ? Je vais réunir deux maires de très grandes métropoles et on va faire un débat là-dessus. Ça serait une très bonne idée. Je pense que ce serait une très bonne idée.
Aujourd'hui, dans l'état des choses, moi, je retiens une chose, c'est que demain, ils peuvent produire de l'énergie. Et ils peuvent fournir à la ville une part de son
bien
énergie.
Donc en fait, vous inscrivez dans le schéma de l'économie circulaire,
oui.
Avec des modèles vertueux. Tout à l'heure, vous parliez de béton, mais vous savez, aujourd'hui, on fait du béton bas carbone.
J'en ai fait.
On fait du béton bas carbone. On fait du béton bas carbone. Puis, on rappelait aussi que dans les ossatures bois, il y a un peu de béton, parce qu'on est obligé d'avoir un peu de béton dans les ossatures bois.
Non.
Et que opposer bois à béton, à mon avis, ce n'est pas le bon débat.
Non.
Le bon débat, c'est l'opportunité qui crée, effectivement.
En fait, il y a plein de solutions sur l'étagère. Il faut prendre les bonnes solutions au cas par cas.
Eh ben, je pense que c'est la bonne idée, la plus pragmatique, qui clôture effectivement ce quart d'heure de l'INO qui a duré 22 minutes. Évidemment. C'est toujours un plaisir d'échanger, en tout cas, avec des professionnels. Merci, Jeanne.
Merci à toi, Sylvain.
Voilà, Jeanne Massa pour le quart d'heure de l'INO avec Habiteo, bien entendu. Et Olivier Barge, directeur général de APRC. APRC, venez nous voir, venez sur Radio Imo pour nous parler de votre métier. Je pense que, effectivement, c'est un sujet d'actualité, puisque ce sujet, mesdames et messieurs, il vous concerne tous, bien évidemment. On se retrouve tout de suite après. On est encore ici, édition 2022 du CIMI.
Le quart d'heure de l'INO, une émission en partenariat avec Habiteo. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.